Mon Père, il y a deux questions qui se posent à nous ce matin. La première reprend un peu le cours de la fois dernière.
La première
reprend le cours de la fois précédente. L'efficacité et l'amour dans la croissance de la vie humaine engendrent parfois des frottements, voire des oppositions. Qu'est-ce qui permet leur coopération? La prudence ne semble pas suffire, étant donné qu'elle ne recouvre pas le domaine de l'art.
Sûrement, entre prudence et art, il y a toujours un petit frottement. L'artiste a comme fonction de nous empêcher de rester trop prudents. L'artiste est un homme qui veut profiter le plus possible, dans une bonne efficacité, des occasions qui se présentent et qui risquent toujours de ne pas se représenter. Dans la vie, il y a des choses qui se répètent. Et puis, il y a des choses qui ne se répètent pas. Et je crois que l'homme prudent, c'est celui qui arrive à discerner cela. Les choses qui se répètent, on en use comme c'est nécessaire, suivant les occasions. Les choses qui ne se répètent pas, il faut qu'on soit très attentif à s'en servir. Parce que si on ne s'en sert pas, on ne peut pas les reprendre. Il y a des gens qui sont tout le temps en retard. Ils sont tout le temps en retard dans toute leur vie. Parce qu'ils sont trop prudents. En prudence, on attend. On attend le bon moment, mais quelquefois on attend tellement le bon moment qu'on le laisse passer. L'artiste est celui qui capte beaucoup plus rapidement une situation qui risque de ne pas se présenter. Une bonne occasion. Je dirais que l'artiste, c'est l'homme des bonnes occasions. Il sait en profiter pleinement. Oui, et ça, c'est l'efficacité. L'efficacité n'est pas tellement du côté prudence. L'efficacité s'éveille du côté artistique. Un homme qui sait profiter des bonnes occasions, c'est un artiste. C'est pas l'homme prudent, c'est l'artiste. L'homme prudent, c'est plus général. Et ça se voit beaucoup, ça, dans la vie commune. L'artiste, dans la vie commune, est toujours éveillé pour profiter des bonnes occasions. Que l'homme prudent plus facilement se reposerait au moment des bonnes occasions. Il a assez lutté. Et au fond, dans notre tempérament, il y a les deux. artiste au grand sens du mot, pas nécessairement de construire quelque chose, mais de se construire. L'artiste est celui qui se construit et qui sait se servir, employer les bonnes occasions pour pouvoir profiter le plus possible de ces bonnes occasions, de l'efficacité. Donc l'artiste, c'est l'homme efficace. On est artiste dans la mesure où on est efficace. Ce n'est pas le caractère propre de l'homme prudent. L'homme prudent, ce n'est pas celui qui est efficace. C'est celui qui sait utiliser bien, en vue de la fin, tous les moyens qui se présentent. En vue de la fin. Donc, il est finalisé beaucoup plus profondément que l'artiste. L'artiste a toujours une certaine liberté à l'égard du lien des moyens vis-à-vis de la fin. A toujours une liberté plus grande. Il est un peu maître, le maître, celui qui domine les relations entre les moyens et la fin. Et son caractère d'artiste va se manifester très souvent dans l'utilisation des moyens. Oui, l'art de la logique. La logique est un art. L'art des arts. C'est un art pour les occasions bonnes et qui me permet d'avancer. Et je saisis tout de suite les bonnes occasions. Celui qui n'est pas du tout artiste, il est beaucoup plus mou vis-à-vis des bonnes occasions. Et l'artiste est éveillé vis-à-vis des bonnes occasions. Les bonnes occasions l'éveillent. Il les sent. Et les utilise. Ça, vous voyez tout de suite le tempérament artiste. Le tempérament artiste est efficace. Le tempérament prudent, c'est pas son caractère propre d'être efficace. Son caractère propre, c'est de ne pas laisser tomber les bonnes occasions. Des moyens piègent la fin. C'est très différent. Et c'est sûr que, au point de vue personnel, le développement de l'art et le développement de la prudence donnent deux types différents de personnes. Mais tous les deux sont utilisés par la personne, mais très différemment. De sorte que on verra déjà dès le point de vue, par exemple, dès le point de vue des études, la différence entre l'artiste et le prudent. Permettre voit très bien la diversité des deux tempéraments. Alors, on est plus sévère pour l'artiste que pour l'homme prudent. Normalement.
pourquoi, Père? Pourquoi est-ce qu'on est plus sévère pour l'artiste?
L'artiste va faire quelque chose de neuf.
Mais est-ce que son inventivité est gênante? Est-ce que son inventivité, son désir de nouveauté, est-ce que c'est gênant?
C'est gênant pour le prénom. Pour le prudent, c'est gênant parce que on n'a pas l'expérience de savoir l'efficacité. Il y a un risque. L'artiste, c'est l'homme du risque. Vous voyez, il sait utiliser de la manière très étonnante toutes les bonnes occasions. Que l'homme prudent, lui aussi, d'une certaine manière, c'est ça, mais très différemment. Chez l'homme prudent, le moyen est vu d'une façon beaucoup plus profonde. L'artiste se moque un peu des moyens. Il les domine. Il s'en sert. Et donc, il aime de montrer un peu qu'il dépasse. Le potentiel est bien plus sérieux. Et il risque d'être trop sérieux, le moment. Et c'est pour ça que quand on est devant quelqu'un très prudent, on aime de faire des blagues. Et pour lui faire sortir de cette prudence, un peu trop exagérée. Alors, c'est merveilleux de voir comment l'artiste, lui, utilise tout. Quand il est éveillé, il risque, comme prudent, de dormir trop. L'artiste ne dort jamais. Il est toujours éveillé. Alors, ça, on peut développer beaucoup ces choses-là. Pas la peine de les développer plus, c'est de montrer que de fait, dans la structure de la personne, il y a deux moyens très différents, l'art et la prudence, qui me permet de lier les moyens à la fin. L'artiste lie les moyens à la fin, presque selon un jeu. Il invente. L'homme prudent est un homme qui s'appuie beaucoup plus sur l'expérience. Et qui s'appuie sur l'expérience et qui utilise l'expérience. L'artiste a plus le sens de la nouveauté, une voie nouvelle. Il l'apprendra tout de suite. Alors que l'homme prudent, entre la voie nouvelle et puis la voie traditionnelle, la seule... c'est vraiment deux types différents de personnes. Oui. C'est pour ça que c'est toujours très délicat à voir ces choses-là, parce que c'est évident que l'artiste développe quelque chose de très original. Et c'est pour ça qu'un artiste qui dépend d'un homme prudent, ça peut arriver. Un un étudiant très artiste et un père Mèze très prudent. Ça fait des chocs assez violents. Ils s'entendent, mais dans la lutte. En étant tout de suite d'accord. Non. Il faut lutter, parce que l'artiste, pendant le chemin, peut être beaucoup plus recueilleux, beaucoup plus difficile, mais ça l'intéresse. C'est nouveau. L'homme prudent, attention, c'est nouveau, attention. Mais c'est quand même deux types très différents d'hommes, l'homme prudent et l'homme artiste. Mais tous les deux sont nécessaires. Quelqu'un qui n'est pas artiste du tout, très vite devient ennuyeux. S'il n'y avait que la prudence, ce serait très ennuyeux. La vie commune, hein. La vie commune serait ennuyeuse. La vie commune avec des artistes manque de continuité. Elle est tout le temps renouvelée. Alors ça manque de continuité. On ne profite pas suffisamment de l'expérience qui a été faite. C'est très intéressant à voir et de voir la répercussion intellectuelle sur l'art. Je veux dire, la répercussion de l'art sur notre vie intellectuelle. Un artiste progresse autrement qu'un homme prudent. Et intellectuellement, l'artiste progresse autrement qu'un homme prudent. Donc, la prudence et l'art sont vraiment deux grands moyens de développer concrètement notre vie humaine, notre vie artistique. C'est bon dans sa vie d'avoir fréquenté un véritable artiste, si on ne l'est pas soi-même, d'avoir compris un peu ce que dit l'artiste. Et c'est bon d'avoir fréquenté un homme prudent. L'homme prudent, c'est plus classique, si vous voulez. C'est plus classique, c'est plus sûr. Vous voyez, c'est les propriétés, c'est plus facile. C'est plus sûr. L'artiste, c'est toujours un peu chanceux. Un petit peu. Est-ce qu'il aura la force d'aller jusqu'au bout? Est-ce que ça peut aller jusqu'au bout? Il a un sentier qui n'est pas celui de tout le monde. L'homme prudent, plus compréhensible. On a moins d'histoire avec un novice prudent qu'avec un novice artiste. Le novice artiste, alors, par rapport à Dieu, ça peut être un plus grand saint. Par rapport aux hommes, c'est plus difficile. C'est pas toujours commode d'avoir un novice saint. C'est plus facile d'avoir un avis qui entre davantage dans les cadres. Et un périmètre qui a un avis saint et qui ne voit pas la sainteté d'un vice et le point de vue du Saint-Esprit, grand artiste, premier artiste, et une conduite de l'Esprit-Saint qui est très importante. Parce que si vous ne voyez jamais ça, et vous opposerez la sainteté, ce qui est terrible. Il faut au contraire aider la sainteté. Mais c'est plus difficile de mener quelqu'un à la sainteté que de mener quelqu'un uniquement à la prudence. Vous retrouvez prudence, sagesse. Au fond, le point de vue artistique demande d'être dominé, du moins d'être vu dans la sagesse. La sagesse, le propre de la sagesse, ce sera d'équilibrer le point de vue art et le point de vue prudence. Constamment, ça. Équilibrer, harmoniser les deux. Bon, être l'homme qui favorise uniquement le point de vue prudentiel ou seulement le point de vue artistique, non. Point de vue sagesse, c'est toujours l'équilibre des deux. C'est pas commode, hein, c'est ça la richesse de l'homme. Il y a une très grande richesse de voir le développement artistique ou bien le développement prudentiel. Et là où on saisit tout de suite une très grande diversité dans l'homme. Un homme prudent, c'est très beau. Un homme artiste, c'est encore plus beau. Oui, on a vu beauté. L'homme artiste est plus beau que l'homme prudent. Ce n'est pas la beauté. Le caractère propre de l'homme prudent. L'homme prudent, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est ça qui frappe. Tandis que l'homme artiste, c'est la fantaisie, fantasia. Les tempéraments italiens, c'est ça. Fantasio. Pas trop prudent. Bon, alors, après.
Il y a une seconde question.
Oui.
Au sujet de l'analyse des divers éléments formant la personne humaine, nous avons souligné l'autonomie, la recherche de vérité, l'amour et la prudence.
Oui.
On voudrait savoir comment aborder à présent la question de la liberté chez la personne.
La liberté, elle est toujours présente. Mais ce n'est pas la question principale. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé. Pour elle-même. La question principale, c'est la finalité. C'est-à-dire ce qui me rend libre. Qu'est-ce qui me rend libre ? C'est d'aimer. quand j'aime, je suis libre. Et je suis libre dans la mesure où j'aime. Donc, je regarde la finalité comme quelque chose de capital, puisque c'est la finalité qui me rend libre. La liberté pour elle-même, je cherche la liberté, comme Descartes. Descartes cherche en premier lieu la liberté, pas la finalité. Rechercher en premier lieu la liberté, c'est le retour sur soi. Alors que la finalité, c'est le regard vers la fin. C'est là une très grosse différence. Celui qui est finalisé regarde toujours ce qu'il finalise. Et ce qu'il finalise est premier. Il intéresse d'une façon souveraine. C'est vraiment ça qui intéresse. Chez celui qui cherche la liberté, il est toujours retourné vers le sujet qui veut être libre. Et non pas sur la fin. Et c'est là qu'on trouve l'opposition entre l'efficacité et la finalité. Et un homme qui cherche toujours la finalité, quelle est la finalité de cela dans ma vie? Je suis entré à Saint-Jean. Quelle est ma finalité? Et c'est pour ça qu'on doit chercher. J'entrais à Saint-Jean, quelle est ma liberté? Vous voyez bien, c'est un petit peu à côté. Vous n'êtes pas rentré à Saint-Jean pour être libre. Je suis rentré à Saint-Jean pour connaître la liberté de l'Esprit-Saint. Ah oui, la liberté de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, en réalité, son amour, la manière dont l'Esprit-Saint me conduit. C'est pour ça que j'entre à Saint-Jean, pour être sous la conduite de l'Esprit-Saint. Donc, on ne cherche pas directement la liberté. Celui qui cherche la liberté dans la vie religieuse, ben il se trompe de porte. Si vous cherchez la liberté, vous n'entrez pas dans la vie religieuse. Si vous cherchez l'amour, entrez dans la vie religieuse. Il y a deux catégories. Hein. Les gens qui cherchent à tout prix la liberté, les gens qui cherchent à tout prix l'amour. C'est vraiment deux diversités. Alors, je peux me poser la question, est-ce que c'est deux manières diverses d'être une personne? Eh bien, je dirais non. Quand on recherche à tout prix la liberté, on n'acquiert pas la personne. Celui qui cherche avant tout la liberté et tout le temps la liberté, au bout d'un certain temps, il est seul et il finira mal sa vie. Tristement, il sera très seul. Chercher la liberté avant tout conduit à la solitude. Chercher l'amour avant tout conduit à l'amitié. Il faut bien voir ça. Donc, je ne dis pas deux types de liberté, deux types de personnes. La personne qui aime est la personne libre? Non. La personne libre n'est pas un type particulier d'une personne. La liberté ne caractérise pas votre personnalité. C'est très important. La liberté ne me construit pas. Et c'est une erreur. Ceux qui cherchent la liberté avant tout, ils ne se construisent pas. Parce que ça ne structure pas mon être, la liberté avant tout. C'est une manière particulière de vivre libre. Ça me permet beaucoup de choses. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça ne finalise rien. La liberté ne me finalise pas. Elle est une condition qui me permet d'agir. Donc, il n'y a pas un type spécial. La liberté est nécessaire à la personne, au développement de la personne. Oui, ça oui. Il faut la liberté comme condition pour le développement de la personne. Mais la liberté ne me donne pas un type particulier de personne. Et c'est pour ça que mettre la liberté comme fille, comme un type de finalité, ne conduit à rien. Je m'en sers de liberté.
Mon père, oui. Vous soulignez que c'est l'amour qui nous rend libres. Oui. Est-ce qu'en philosophie, on ne pourrait pas aussi dire que c'est la vérité nous rend aussi libres?
Oui, sûrement. La liberté, l'amour est plus immédiate. La vérité est plus lointaine. Autrement dit, je cherche la vérité, la lumière, de façon ultime. Elle me rendra libre. Je cherche l'amour. L'amour me rend libre. L'amour me rend libre immédiatement. La vérité, immédiatement. Grâce à la recherche de la vérité, je pourrai rechercher une liberté plus grande, commandé par cette recherche de la vérité. Mais la liberté jaillira toujours de l'amour. Autrement dit, il y a deux manières de chercher la vérité. Je peux chercher la vérité en soi, Platon. Je peux chercher la vérité par rapport un être que j'aime, moi-même. Alors, la recherche de la vérité par rapport à moi-même est immédiatement ce qui me permet d'être libre. La recherche de la liberté, la recherche de la vérité en soi, ce n'est pas suffisant pour me rendre libre. Et Platon recherche la vérité. Aristote recherche la vérité. Platon cherche la vérité autrement qu'Aristote. Platon cherche la liberté en soi. Et rechercher la vérité en soi ne me rend pas libre. Et n'augmente pas mon amour. C'est un idéal. C'est la recherche de la liberté dans l'amour. L'amour est immédiate source de liberté, beaucoup plus que la vérité. La vérité est une condition sine qua non pour rechercher la vérité. Mais il y a une manière, quelquefois, de chercher la vérité, un formalisme, qui m'écarte de l'amour. C'est normal, du reste. Bon, alors, toujours dans la recherche de la personne. On a beaucoup secoué la recherche de la personne du côté de la prudence, la recherche de la personne du côté de l'art. Il y a deux types de personnes très caractéristiques, l'homme prudent, l'homme artiste. Pas le même genre de prudence de personne. Il faut respecter ça. Il y a dans l'homme une possibilité d'être un type de personne particulier par la prudence, un type particulier de la personne par l'art. Et c'est le propre de la recherche de l'art, ça. C'est la première fois où on voit une dualité. La vérité implique l'unité, l'amour implique l'unité, la finalité implique l'unité. Tandis que quand je suis au niveau artistique ou au niveau prudentiel, j'ai deux types particuliers de personnes. Et c'est le premier moment où je touche une diversité dans la formation de la personne, au point de vue art, au point de vue prudence. Et ça, c'est très important. De respecter cette diversité humaine. Deux types différents. L'artiste, l'homme prudent. Deux types particuliers. Alors, je peux les unir dans la sagesse. Je les unis. Mais tout le temps revient la diversité. Dans la vie concrète. Dans la vie concrète, il y a toujours une diversité dans le choix des moyens chez l'artiste, chez le prenant. Et essayez de comprendre cela, parce que je crois que ça c'est très important. Essayez de comprendre que la première diversité, c'est l'art et la prudence au point de vue diversité de la personne. Avant ça, je suis dans l'unité. Là, il y a les deux. Et il y a les deux qui ont des exigences différentes. Les exigences de la personne artiste et les exigences de la personne prudente ne sont pas les mêmes. Donc, au point de vue espèce humaine, la grande diversité, ce sera l'artiste et l'homme prudent. Je peux dire ça tout de suite. Et je serai là, et je suis là en face d'une diversité. En tant qu'homme prudent, je choisis ceci. En tant qu'homme artiste, je choisis cela. Et il y a une diversité. Vous ne pouvez pas unir les deux. Donc, il y a un choix. Je ne peux pas parler de la prudence sans parler de l'art. Je ne peux pas parler de l'art sans parler de la prudence. Quand il s'agit de la personne, quand il s'agit de la formation de la personne, l'art et la prudence, tous les deux forment un type particulier de personne. C'est la première diversité. Et une diversité la plus grande. La première diversité au point de vue personne. C'est très étonnant, ça. L'art et la prudence. Qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui fait partie de ma personne comme élément? Ou, si vous voulez, ce serait peut-être encore plus intelligent de dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a une diversité entre prudence et art? Pourquoi y a-t-il cette diversité et que cette diversité peut aller très loin? C'est à cause du corps. C'est à cause du corps. Ma relation à mon corps est d'ordre prudentiel ou d'ordre artistique. C'est curieux. Et il me semble que c'est juste de dire ça. Que c'est vraiment à cause du corps qu'il y a cette diversité. Mon regard sur mon corps est divers en tant qu'artiste, en tant qu'homme prudent. Nous avons tous un regard particulier sur notre corps. Et nous le considérons comme un instrument dont on se sert on le considère comme un moyen immanent. À ma vie. Je ne peux pas me séparer de mon corps. Il y a deux regards très différents qui sont le fondement de ces deux types particuliers de personnes. Vous avez un regard artistique vis-à-vis de votre corps. Je m'en sers. Mon corps, je m'en sers. C'est pas ma finalité. Mon corps, je ne peux pas m'en séparer. Même si je m'en sers, il est immanent. à ma personne. Et c'est vrai, je ne peux pas me séparer de mon corps. Je peux, dans une attitude artistique, me séparer de mon corps. Alors, c'est mon corps que je façonne en premier lieu. Mon corps, il m'est donné. Mon corps, je puis le façonner. Jusqu'où ? C'est le gros, gros problème d'aujourd'hui, ça, au fond. Parce que la nature est d'abord corporelle. La personne est premièrement finalisée. Mon corps n'est pas ma fin. Mais il m'est donné dans ma nature. Puis-je changer mon corps ? Ou m'est-il donné comme quelque chose que je dois respecter et m'en servir ? Il y a un problème très particulier au corps qui est à la fois donné, mon corps m'est donné, mon corps m'appartient, mon corps c'est mon bien. Et en même temps, c'est un bien immanent que je dois respecter. Je ne peux pas faire de mon corps tout ce que je veux. Il y a donc là quelque chose de très particulier qui fait comprendre la dualité entre art et prudence. La dualité entre art et prudence provient du corps. Mes relations à l'égard de mon corps font que je suis premièrement artiste ou premièrement moi. C'est, je crois, juste dire ça. On ne le dit pas d'habitude. Ce qui fait comprendre que l'ange, qui n'a pas de corps, il n'y a pas de distinction pour l'ange entre art et mort et prudence. L'ange est nécessairement prudent. Tandis que l'homme n'est pas nécessairement prudent. C'est très, très curieux. Le point de vue prudence, hein. Au point de vue prudence, point de vue personne, je veux dire. C'est très curieux. Ma relation que j'ai à mon corps. Je dis, point de vue classique, mon âme informe mon corps. Vous voyez, aujourd'hui, on ne veut plus parler de l'âme. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je veux posséder mon corps et en faire ce que je veux. L'âme était gardienne de mon corps. Et elle est toujours gardienne de mon corps, mon âme. Parce que mon âme habite le corps. Elle informe le corps, elle habite le corps. Donc si mon âme habite mon corps, je ne peux pas faire de mon corps ce que je veux. Je suis obligé d'interroger celle qui habite mon corps. Qu'est-ce qui habite mon corps, mon âme ? Curieux, une drôle d'habitation. Une habitation qui la limite prodigieusement du côté des circonstances. À cause de mon corps, je suis terrible. Ça la fois prochaine. C'est, je crois, très important de voir ça, de bien comprendre la relation vraie et personnelle que je dois avoir avec mon corps et toutes les multiples manières de regarder cette relation de l'âme. Je vous salue, ma